crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons ensemble une huile sur toile immense, à 1,97 m par 3 m, réalisée vers 1851 par le peintre anglais John Martin et intitulée « The Great Day of His Wrath », le grand jour de sa colère, autrement dit. Elle fait partie d'un triptyque sur la fin du monde composé avec ce grand jour de sa colère que nous allons examiner, le jugement dernier et les plaines du paradis.
Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Apocalypse de Saint Jean. Verset 17, chapitre 6.
Pas un paysage, mais plutôt une immense mâchoire déployée sur toute la surface de la toile et qui se referme sur les derniers vivants. À gauche et à droite de la partie haute du tableau, de gigantesques blocs de calcaire fracassés qui emportent dans leur effondrement des villes entières, arrachées à leur socle et à leur histoire. Elles chutent dans un gouffre obscur duquel jaillit le rougeoiement sinistre des laves volcaniques, soudain révélées par l'éclatement des plaques tectoniques. Ce n'est plus un ciel, mais un maelstrom électrique rayé d'éclairs blancs qui hurlent dans des vapeurs noires et roses, qui émanent d'un horizon ensanglanté par une lune rougeâtre. De chaque côté, en bas du tableau, réfugiés sur les rives de l'abîme, alors que le monde inéluctablement bascule, des survivants s'accrochent en vain à d'ultimes langues de terre. Là, une femme, à droite un homme, déjà leur corps nu bascule. Les bras des rescapés se lèvent, terrifiés par le fracas, comme pour une dernière et inutile supplique. L'œil sollicité par les nombreux foyers d'épouvante, éparpillés sur la surface de l'œuvre, est sidéré. Mais déjà, la pensée s'excite, en identifiant les événements de la scène qu'il parvient difficilement à synthétiser. Falaise, catastrophe, apocalypse, terreur, obscurité, foudre, volcan, destin, tous les éléments de l'émotion la plus intense sont poussés au paroxysme et pourtant ces horreurs accumulées nous procurent un mystérieux et paradoxal plaisir.
Martin n'est pas un peintre. C'est une puissance mystérieuse qui n'a de rang ni de place nulle part, qui se soucie peu de la forme de sa pensée, pourvu qu'il émeuve, qu'il étonne et qu'il galvanise la pensée d'autrui. Il se complaît dans une poésie sans nom, embryonnaire, inachevée, confuse, qui excite l'imagination jusqu'à l'enivrement, mais qui ne laisse jamais dans l'âme du spectateur une impression complète et durable. Théophile Thoré-Burger, 1850.
pour parler du travail de John Martin et particulièrement de cette grande œuvre sur la colère, le jour de la colère de Dieu, je reçois donc un artiste que j'apprécie beaucoup, Laurent Grasso. Laurent Grasso, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va.
Votre travail aussi est fait d'émotions, de miracles, de signes du passé, d'éruptions volcaniques. C'est des sujets qui rentrent dans votre œuvre parfois.
Oui, tout à fait. Il y a un certain goût pour la catastrophe, sa représentation et puis aussi l'histoire de sa représentation. Et effectivement, c'est un petit peu intriguant de savoir quel était l'environnement, on va dire, conscient de Martin au moment où il a fait cette toile. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est plongé dans un océan d'images et il y a beaucoup de catastrophes dans cet environnement, quoi, en fait.
Le plaisir de la catastrophe est devenu universel, si j'ose dire. Parfois, c'est une terreur de la catastrophe, parfois, c'est un plaisir. Je veux dire par là que dans la distraction que le cinéma nous offre, par exemple, c'est quelque chose qui vient souvent. Mais vous-même, vous venez quand même, je voudrais le citer, d'inaugurer une œuvre qui est vue tous les jours depuis 3 jours, je crois, par des millions d'automobilistes sur le périphérique, juste entre Ivry et Paris. Ça s'appelle Solar Wind. De quoi s'agit-il ?
Alors, encore une nouvelle catastrophe potentielle. Solar Wind, c'est une animation lumineuse qui restitue de manière presque temps réel l'activité du soleil et ses éruptions, ses tempêtes éventuelles autour de données donc transmises par des laboratoires scientifiques. Il y a un petit programme, on va dire, qui transforme ces données en images, en variations lumineuses, en variations de couleurs. Et on est donc souvent en voiture, hein, puisque c'est au bord du périphérique, et on voit ces deux silos qui ont déjà voilà une architecture assez impressionnante, deux silos de 40 mètres de haut. Et s'y déroule cette animation, c'est une œuvre de commande qui est censée durer au moins 10 ans, j'espère. Et donc, voilà, Solar Wind, c'est l'allusion à une catastrophe, en fait, d'un type très contemporain, au sens où il y a eu, par exemple, une éruption solaire en 1859, je crois, dont le seul effet avait été de modifier le télégraphe, puisque à l'époque, c'était la seule chose qu'une tempête solaire, et donc qui a des effets magnétiques sur la Terre, puisse modifier. C'était la seule conséquence négative. Aujourd'hui, évidemment, on est exposé à d'autres types de conséquences. Mon travail est souvent dans cette espèce d'entre-deux, entre la fascination, une possibilité, une inquiétude, et j'espère que voilà, Solar Wind participera de...
Donc à nos amis automobilistes qui écoutaient France Culture, si vous passez sur le périphérique entre Ivry et Paris, vous saurez le temps qu'il fait sur le soleil en regardant en fait simplement ces immenses jeux lumineux que vous avez inventés sur ces silos.
Exactement, on peut dire ça. Hein. Ouais.
Et alors donc nous allons revenir à notre tableau de John Martin et pour en parler, nous allons être soutenus par la connaissance d'Hélène Guenin. Bonjour Hélène, vous allez bien ?
Bonjour, très bien, merci.
Donc, vous êtes responsable de la programmation au Centre Pompidou-Metz, après avoir travaillé au FRAC de Lorraine, n'est-ce pas ? Vous êtes la commissaire de section sur le sublime, les tremblements du monde. Le sublime, les tremblements du monde, qu'est-ce que c'est que le sublime ? Qu'est-ce qu'on appelle, d'un point de vue d'histoire de l'art, le sublime ?
Alors, ce qui m'a intéressé dans cette exposition, c'est de revenir sur une dimension philosophique et esthétique qui est née au cœur du XVIIIe siècle. C'est Edmund Burke qui, en 1757, a écrit un livre sur cette notion du sublime, appliquée notamment à notre relation à la nature.
Ça a eu des conséquences énormes, ce livre de Burke, qu'on a connu plus comme historien de la Révolution française, historien critique d'ailleurs de la Révolution française.
Complètement, mais je pense que les deux sont liés parce qu'en fait, cette notion de sublime qui revient sur la fascination pour le le plus grand que soi, pour l'engloutissement, pour ce frisson, ce qu'il appelle cette horreur délicieuse que l'on peut ressentir face à la nature, c'est sans doute aussi le signe de son temps, d'un temps bouleversé où les grandes royautés, grandes monarchies européennes sont un petit peu
vacillantes.
En fait, oui. La révolution se passera quelques années plus tard et il écrira effectivement avec un regard assez critique sur la révolution.
Et puis il y a cette extraordinaire transformation du monde qui est pas seulement au fond les révolutions politiques, mais aussi l'industrialisation qui bouleverse les paysages, et j'imagine que ça donne une sensation très très différente de ce qu'est l'harmonie, l'idée même d'harmonie, non ?
Complètement, et c'est vrai que c'est une période qui est prise finalement entre la persistance d'une vision religieuse du monde et d'une explication religieuse des catastrophes, et les débuts des grandes explorations, les grandes explorations naturalistes, qui ramènent aussi des images de nouveaux paysages, la haute montagne, le littoral, des phénomènes jusque-là
inconnus. Parce qu'effectivement, les gouffres ou les grands paysages alpestres étaient plutôt terrifiants, le bord de mer était peu fréquenté et considéré comme inquiétant, non, c'est ça ?
Tout à fait, et c'est resté une vision assez tardive. C'est Alain Corbin qui rappelle dans plusieurs de ses ouvrages sur la mer, le littoral, que finalement, pour l'homme du 19e siècle, les précipices, les côtes sont encore des verrues de la création et les vestiges de ce moment de la naissance du monde.
Laurent Grasso, je lisais il y a quelques jours que le paysage des volcans, je sais que vous avez travaillé là-dessus, que dans l'exposition sur le sublime, il y a justement un volcan de vous. Le paysage des volcans a été dessiné dans la grotte Chauvet. On vient de comprendre l'interprétation d'explosions qui ont eu lieu donc il y a probablement plus de 27 000 ans. Et au moment où la grotte Chauvet était encore fréquentée, et ces volcans ont été représentés. J'imagine que c'était un signe extrêmement fort de l'esprit. Et à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire que les premiers artistes se soient tout de suite fascinés ou aient tout de suite exprimé ces grandes éruptions volcaniques ?
Je pense qu'il y a une force, justement, lorsqu'on parle du sublime, du fait d'être comme submergé par à la fois une fascination et une beauté très forte. Les volcans, on se trouve un petit peu aux premières loges de ce spectacle comme un acteur très fort. Les volcans, en fait, ont été l'objet d'une fascination. Il y a eu ce magnifique livre d'Hamilton qui participe au XVIIIe siècle de cet intérêt très fort et de ces représentations. J'ai entendu, par exemple, aussi l'histoire d'un prince allemand qui avait commandé un volcan artificiel dont vous allez peut-être parler, ou je ne sais pas s'il est abordé dans l'exposition. Quand on se trouve par exemple à Stromboli, et c'est là où j'avais tourné mon film Soleil Noir, qui mélange justement des images de Pompéi et Stromboli, il y a cette impression d'être à la fois dans un paysage, mais dans un paysage entre guillemets magnétique, actif. C'est encore plus fort que la montagne, quelque part, qui est déjà un spectacle assez sublime, entre guillemets. Les volcans ont un très fort pouvoir magnétique également, quoi, en fait. Je pense qu'on ne dort pas de la même façon lorsqu'on est à côté ou lorsqu'on est sur Stromboli, par exemple. C'est celui que je connais bien, pour y être allé plusieurs fois, y avoir tourné. Mais j'ai également visité d'autres volcans comme l'Etna.
Alors il y a dans l'exposition dont nous parlons, donc la grande exposition, le sublime et les tremblements du monde, qui est au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 5 septembre prochain, n'est-ce pas ? Il y a la représentation de votre part d'une éruption. Une éruption qui a effectivement englouti Pompéi. Il y a la date qui est marquée en néon à côté, et puis il y a une relique, ce qui paraît être une relique, et on ne sait pas si on est dans ce grand reliquaire, dans le vrai, dans le faux, mais c'est ce qui nous permet quand même d'avoir un sentiment sur la catastrophe et qui me permet de revenir à ce dont nous devons parler aujourd'hui. C'est cet étrange tableau de ce peintre incroyable, John Martin. Vous avez vu ce tableau, qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant sa reproduction ? Qu'est-ce que vous avez imaginé ?
Ce que je trouve intéressant, c'est le fait que la Terre se confonde avec le ciel. Il y a quelque chose, enfin, il y a une énorme perte de repères, une perspective très intéressante, puisque les bâtiments se retrouvent dans le ciel, et il y a cet abîme dont vous parliez. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quel est le goût de l'époque pour la catastrophe et dans quel contexte s'inscrit finalement ce tableau. Bon, il y a eu la révolution.
Hélène va nous dire qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le goût de l'époque? Pourquoi
Alors, j'ai pas la prétention de connaître toute l'époque, mais ce qui est certain, c'est que à Londres, au 19e siècle, il y a vraiment une passion folle pour les panoramas, pour les fantasmagories, les dioramas et alors, tous les spectacles.
Qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est les dioramas, par exemple?
Alors, c'est vraiment des sortes de spectacles qui sont organisés. Alors, parfois, il y a des sons et lumières. John Martin en a organisé lui-même sur ses propres peintures, mais aussi des séances de projection. En 1838, il y a la Royal Polytechnic qui ouvre ses portes à Londres et qui organise des sessions de lanternes magiques. Donc à la fois des ouvriers, des bourgeois et les nobles se précipitent dans ces salles pour assister à un spectacle de projection, parfois de dimensions assez spectaculaires. On maîtrise le fondu enchaîné à ce moment-là, c'est vraiment les prémices du cinéma. Et la foule se précipite pour aller assister à des sortes de carnets de voyage qui ramènent des images du monde entier, mais aussi des images de catastrophes, des avalanches. Le Vésuve fait partie du hit de ces soirées-là. Là, et John Martin, en fait, va aussi surfer un petit peu sur cette vague. Et ses peintures et ses eaux-fortes ont un très grand succès parce qu'elles s'inscrivent dans cet esprit de l'époque de fascination pour cette nature tourmentée.
Alors, ça a été inventé par Daguerre, je crois, très tôt. Et ensuite, c'est devenu effectivement une activité très populaire. Il y a un grand peintre d'origine lorraine, mais qui a vécu à Londres, qui s'appelle Lauterbourg, qui a fait lui aussi des dioramas très spectaculaires. Et il y a un désir d'étonnement. L'œil est encore assez vierge, il n'est pas habitué aux images mobiles. Et puis il y a ce désir probablement d'étonnement qui donne un appétit pour créer des images ou des tableaux de plus en plus spectaculaires qui deviennent comme des spectacles en fait. Donc quelque chose comme ça.
Complètement, et qui joue sur l'effet de sidération. Tenter de retrouver le frisson et la sidération, mais dans un voyage immobile, confortablement installé dans une salle. Et c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est vraiment une période où on en est aux prémices de l'explication de la naissance du monde. Il y a encore plusieurs thèses qui se bataillent à cette époque-là. Et notamment, on y fait un petit écho dans l'exposition, une vision plutôt magmatique et de la naissance du monde, qu'on appelle le plutonisme, où le monde serait né des mouvements des plaques tectoniques et de ce feu permanent au cœur de la Terre. Et puis une version plus neptunienne qu'on retrouvera chez Turner, avec finalement cette idée d'une grande mer originelle qui aurait façonné les côtes et qui va donner naissance à toute cette esthétique de la confusion du ciel, de la mer et à une...
Ce qui fascine les artistes, évidemment, John Martin le premier, qui avait des relations avec un célèbre savant qui était Cuvier. Et qu'est-ce que vous êtes? Vous plutôt plutoniste, neptunien, Laurent Grasso?
Anthropocéniste,
c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Parce que c'est vrai que cet intérêt pour certaines orientations de la science ou de l'analyse continue à intéresser les artistes de la même façon aujourd'hui.
Je trouve intéressant et même bon essentiel pour un artiste d'essayer de comprendre un petit peu bon ce qui se passe autour de lui. C'est vrai que aujourd'hui la notion de catastrophe, moi j'avais entendu des mots d'un spécialiste justement du réchauffement climatique qui expliquait que pour lui aujourd'hui la catastrophe durait, c'est-à-dire que contrairement à des conceptions de la catastrophe comme un événement qui aurait presque pas duré mais qui serait comme immédiat, instantané, aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle ère d'une catastrophe qui dure, quoi, en fait, si on prend tous les désastres récents comme Fukushima ou toute l'interrogation climatique sont des choses qui aujourd'hui ont une durée et qui ont une éruption volcanique, il y avait un début, une fin, il y avait des conséquences qui après elles pouvaient durer, mais c'était un événement qui avait voilà une durée très courte quoi en fait quoi. Donc je pense que ça c'est un changement aujourd'hui intéressant. Après oui pour les artistes être en contact, en relation lors de différentes recherches avec des scientifiques pour pouvoir un petit peu discuter en non spécialiste, c'est assez essentiel et assez intéressant.
Alors cela était l'occasion pour John Martin à son époque de créer des frissons délicieux dans la tradition d'un texte ancien puisqu'il était de 1757 sur le sublime qui avait été fait par Burke, vous en parliez tout à l'heure, Hélène Guenin. Donc je vous propose d'écouter la très célèbre définition du sublime par Edmund Burke, suivie d'un extrait d'une des fameuses lettres de Carus, le peintre et scientifique romantique allemand, sur la peinture de paysages.
La passion causée par le grand et le sublime dans la nature, lorsque ses causes agissent le plus puissamment, est l'étonnement. Et l'étonnement est cet état de l'âme dans lequel tous ses mouvements sont suspendus par quelques degrés d'horreur. Alors l'esprit est si rempli de son objet qu'il ne peut en admettre un autre, ni par conséquent raisonner sur celui qui l'occupe. De là vient le grand pouvoir du sublime, qui, bien loin de résulter de nos raisonnements, les anticipe et nous enlève par une force irrésistible. L'étonnement est l'effet du sublime dans son plus haut degré. Les effets inférieurs sont l'admiration, la vénération et le respect. Edmund Burke, Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau, 1757. L'homme prend conscience de sa propre petitesse en contemplant la nature dans toute sa splendeur. Et renonçant en quelque sorte pleinement à son existence individuelle, il intègre lui-même cet infini, parce qu'il a le sentiment immédiat que tout est en Dieu. Une telle immersion n'est pas une perte, mais un gain. Neuf lettres sur la peinture de paysage, Carl Gustav Carus, 1831.
Laurent Grasso, vous regardez avec moi cet immense tableau sur la colère, le jour de la grande colère de Dieu, qui donc le sixième sceau de l'Apocalypse qui se rompt, et nous regardons ce tableau de John Martin ensemble. En quoi ce tableau, qui a été à la fois très admiré, très populaire, peut nous intéresser aujourd'hui? Est-ce que le sentiment d'effroi ou d'horreur crée réellement, comme on le pensait lorsque l'on écoute le texte de Burke justement sur le sublime, crée encore un plaisir?
Justement, je pense que c'est peut-être l'absence de représentation de l'époque qui permettait cette position du sublime, en fait. Aujourd'hui, moi, une des raisons pour laquelle dans l'exposition Soleil double, qui traitait beaucoup de la catastrophe et de l'anthropocène, j'avais aussi fabriqué ces tableaux qu'on retrouve dans mon travail, qui s'appelle Studies into the Past, c'était pour avoir des références historiques et justement ne pas avoir à manipuler les images de l'actualité.
Alors, pour le décrire, ce sont des tableaux qui donnent la sensation d'être faits au XVIe siècle, parfois à d'autres époques, et dans lesquels souvent des miracles ou des merveilles météorologiques ou autres adviennent, des phénomènes de la nature. Et on ne sait pas si ce sont des tableaux de cette période-là faits aujourd'hui ou bien si ce sont des tableaux qui témoignent d'un sentiment de leur propre époque.
Oui, et en fait, j'avais préféré montrer ces tableaux et voilà produire ce travail plutôt que je n'ai jamais été dans un rapport frontal au réel et je trouve que pour répondre à la question serait beaucoup plus dur aujourd'hui pour un artiste d'avoir à se positionner par rapport à des catastrophes ou des images de catastrophes qui existent. Certains en font le choix. Et
Kiefer, par exemple, c'est quand même souvent des terres ravagées par la guerre.
Oui, alors, mais justement, la guerre, mais ça va être des guerres qui sont déjà passées, éventuellement. Et justement, j'ai vu son exposition hier au Centre Pompidou. À aucun moment donné, on peut être blessé ou, comment dire...
On n'est pas concerné, vous voulez dire, on n'est pas dedans.
Pas directement, mais et c'est peut-être tant mieux, et c'est peut-être ça aussi le rôle d'un artiste, c'est à un moment donné une certaine transposition pour ne pas être dans des motifs qui sont très présents. Moi, je pense que tout simplement, à l'époque de Martine, les images des catastrophes réelles n'existaient pas. Enfin, au sens, les représentations de ces catastrophes de cette époque ne circulaient pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, et on l'a vu avec les derniers événements et avec Daesh, il y a une maîtrise, au contraire, de la communication. Alors, bon, là, je fais allusion à quelque chose de complètement différent, mais quand même, aujourd'hui, la communication a pris un pouvoir énorme, et l'artiste doit aussi se positionner par rapport à ça. C'est-à-dire que l'artiste n'est plus simplement la personne qui va représenter, c'est aussi celui qui se positionne, et le rôle de représentation est moins important. Par rapport, on est
évoquait... peut-être. Je voudrais qu'Hélène nous donne son point de vue là-dessus. Hélène Guenin, vous qui venez de faire cette exposition sur le sublime, quelle est l'actualité du sujet? Pourquoi faire ça aujourd'hui?
Alors, ce qui m'intéressait, c'était de finalement remonter le curseur, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, de l'anthropocène.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, l'anthropocène, c'est encore un grand débat entre les géologues pour savoir si aujourd'hui l'humanité représente une force géologique comparable au mouvement des plaques tectoniques, à l'influence
du climat. Une nouvelle
ère,
celle qui serait modelée par l'homme, en fait.
Exactement.
La Terre modelée par l'homme.
Voilà. Et c'est une ère qui aurait commencé avec la révolution industrielle et qui marquerait finalement l'empreinte irrémédiable de l'homme sur la Terre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des débats qui sont au cœur de notre actualité. Et ça m'intéressait finalement de reposer cette question de qu'est-ce que c'est l'anthropocène, en remontant le curseur, et un peu comme le fait aussi Laurent, en interrogeant finalement cela à travers une notion esthétique et philosophique née au cœur du XVIIIe siècle. Pour moi, il y a à la fois persistance et transformation. Persistance parce que malgré nous, nous restons toujours happés face au spectacle des débordements de la nature. On parlait tout à l'heure de Fukushima, du tsunami. Je pense que comme beaucoup de personnes, je suis restée happée malgré moi par les images redondantes de cette furie de l'eau charriant des débris de maisons, des immeubles. Donc cette puissance débordante de
alors,
la nature.
Comme c'est le drame réel, oui. Il n'y a évidemment que de l'effroi. Et quand on regarde un film catastrophe, il y a du sublime, c'est-à-dire
le
un délice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence?
La différence, c'est la position de spectateur.
C'est qu'on est loin.
On est loin. Ouais. On est en sécurité. Et c'est vrai que le cinéma use et abuse de cette image cathartique de la catastrophe, comme pour préparer finalement un possible après. Et j'avais été très frappée au moment de préparer cette exposition aussi par Lars von Trier, Mélancolia, qui pour moi était vraiment la continuité de cette esthétique du XVIIIe siècle, avec cette scène incroyable qui se produit au début et à la fin du film, avec le ballet de la mort entre Saturne et la Terre. Donc on est vraiment dans un drame cosmique, et en même temps dans un huis clos entre des personnages qui se trouvent eux-mêmes confrontés à l'imminence de leur disparition. Et c'est un drame qui suresthétise cette imminence de la disparition et qui en même temps incarnait d'une certaine manière pour moi une sorte de passion morbide de l'Occident pour sa propre disparition qui était déjà très au cœur des représentations picturales ou des questionnements littéraires au XVIIIe siècle. Donc finalement une sorte de continuité et en même temps, je l'évoquais aussi tout à l'heure, une transformation, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre en avant dans l'exposition, c'est-à-dire qu'au débordement de John Martin auquel nous continuons à assister, s'est substitué avec la deuxième moitié du XXe siècle une transformation de la catastrophe. C'est-à-dire que nous avons pris nous-mêmes conscience que nous n'étions plus uniquement des spectateurs mais des acteurs de ce qui était en train de se produire et que la catastrophe elle-même avait changé de nature en devenant beaucoup plus invisible, insidieuse, si on pense notamment à la pollution. Il y a ce livre magnifique de Rachel Carson, Printemps silencieux, qui évoque les pesticides, le DDT, leur influence sur les écosystèmes, mais aussi le nucléaire, qui a été une forme de sublime ultime, je pense, pour la deuxième moitié du XXe siècle.
Alors nous sommes, ce que vous nous dites, c'est que nous sommes au bord d'une catastrophe qui cette fois-ci n'est pas une représentation, mais qui nous concerne très directement comme espèce, d'un point de vue beaucoup plus large que celui du destin individuel, ou même d'une ville, ou d'une nation. Et Laurent Grasso, est-ce que c'est un thème, est-ce que c'est un sujet que vous pourriez traiter encore, cette question du sublime? Je pense, par exemple, à ce John Martin dont nous observons les œuvres, étrange peintre qui a commencé à travailler avec de la peinture sur verre, et puis qui a travaillé sur des décors d'assiettes, et puis qui est devenu très rapidement un artiste célèbre et accusé de kitsch. Il est quasiment contemporain de Turner, qui lui est, représente dans la même démesure l'artiste savant, lui fait des spectacles avec ses peintures. Est-ce que, sur lesquels il projette des images, il projette des lumières, il les fait apparaître, disparaître, commenter, il les fait déclamer, les textes qui les accompagnent sont déclamés par des acteurs, donc c'est un vrai spectacle. Est-ce que c'est inspirant pour vous?
C'est intéressant, j'ai entendu qu'en 1822, Martin avait ouvert une exposition et il y avait un vernissage de Turner le même jour. Et on a dit dans la presse qu'il n'y avait personne au vernissage de Turner parce que tout le monde était... voir Martin, quoi, en fait. Bon, c'est sûr que...
Ce sont des humiliations que beaucoup d'artistes contemporains peuvent connaître.
Je préférerais être le Turner en question.
Moins visité, mais...
Il y a quelque chose chez Martin de très pompier. Évidemment, on en parlait avant. Moi, je préfère les gravures qui sont un petit peu plus... harmonieuse, à mon sens.
C'est ce qu'Hélène Guenin a choisi de montrer dans son exposition,
oui,
d'ailleurs.
Oui, et puis c'est montré, je crois, pas très loin de certaines de mes œuvres.
Ça ne peut que l'aider.
Voilà. Non, après, c'est très compliqué d'être dans un équilibre qui soit raisonnable, en fait, pour un artiste dans ses productions. C'est-à-dire, j'ai fait une exposition, par exemple, qui s'appelait « Disaster and Miracles » et qui était à la Kunsthaus Baseland. Qui pour moi était très importante parce que d'une part c'était donc à Bâle et c'est une région dans laquelle j'ai grandi en Alsace et donc ça m'avait permis un petit peu de réinterroger le rapport à mon enfance et puis d'ailleurs on m'avait interrogé sur France Culture justement sur cet historique là et j'avais été obligé de me repencher là-dessus et j'avais pensé au tremblement de terre, par exemple. Bâle est une région sismique très forte et donc j'avais retrouvé une gravure de 1356 où on voyait la ville détruite par un tremblement de terre que j'avais utilisé pour faire une de ces premières vitrines qui sont aujourd'hui montrées à l'exposition Sublime au centre Pompidou-Metz, en fait. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans une situation comme celle-ci, qui est plus intime, on va parfois, pour un artiste, trouver des pistes de travail bien plus intéressante et importante pour l'artiste que dans d'autres situations extrêmement exposées, en fait. Ce que je trouve intéressant, pour revenir à Martin, et intriguant dans sa production, c'est cette période où on a un mélange entre le religieux, la catastrophe naturelle et l'ère industrielle. C'est-à-dire que on sent qu'on est dans une forme de passage assez flou où... on ne sait pas encore vraiment à quelle catastrophe il fait allusion. J'ai parcouru quelques documents un petit peu pour voir ce qu'on pouvait dire sur Martin. Y a même des thèses qui chercheraient à le placer du côté des réformistes anglais et qui placeraient sa peinture comme étant engagé politiquement dans l'Angleterre de l'époque, en fait. C'est très compliqué d'arriver à analyser ça pour moi qui ne suis pas historien de l'art, quoi, mais de comprendre comment à la fois le religieux peut être convoqué avec les titres que l'on connaît Mais finalement, on est dans une représentation qui ressemblerait à un tremblement de terre et qui évoque les tremblements de terre comme celui de Lisbonne, qui a eu lieu en 1755. Et donc, je pense,
le souvenir peut-être encore très présent, je pense.
Une iconographie très très forte, quoi, en fait. Et en même temps, peut-être la peur liée à la révolution industrielle et toute l'angoisse que ça peut provoquer, en fait.
Hélène Guenin, voilà, nous avons une historienne près de nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le sentiment? Angoisse religieuse, angoisse industrielle? Quelle est la mutation?
On est en plein dans cette période-là et finalement c'est Annie Lebrun, je ne me souviens pas exactement de la citation qu'elle utilisait, mais qui disait que de tout temps, en fait, l'homme a dû s'est projeté par rapport à une image de la catastrophe, de la destruction et a construit finalement son récit par rapport à cette idée du pire, d'une certaine manière. Et je pense que c'est assez symptomatique d'époque de transition où finalement un récit doit chasser un autre et où on essaye d'inventer quelque chose et où se s'incarne dans ces images d'engloutissement, de débordement, finalement toute la peur, peut-être, l'appréhension de ce moment de transformation. Et pour rebondir finalement sur la dimension contemporaine et cette question de l'anthropocène, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de remettre en perspective cette question de l'anthropocène par rapport à tous ces récits qui sont venus précédemment. Donc même si, évidemment, aujourd'hui, on est dans une transformation qui est avérée, qui est en cours, avec des conséquences qu'on peut d'ores et déjà mesurer, il y a en tous les cas une façon, dans les discours scientifiques ou économiques, d'installer ce récit de la catastrophe et de l'inéluctabilité qui mérite d'être mis en doute. Je pense que c'est une façon aussi un peu aisée de cacher d'autres formes de réponses possibles et d'autres propositions qui s'élaborent ça et là pour faire face aux transformations.
Alors écoute, John Martin, lui, a choisi dans ses peintures-là le religieux. Écoutons-le, qui parle de son choix des thèmes bibliques.
En attirant le regard vers les vastes et grandioses édifices de l'Ancien Monde, ses forêts, ses régions sauvages, ses interminables plaines, ses cavernes, ses rochers et ses montagnes, en ayant librement recours à ces puissants et primitifs éléments que sont l'air et l'eau, lesquels, lorsqu'agités par leur tout-puissant ordonnateur, l'artiste peut se permettre de choisir des thèmes bibliques qui ont jusqu'ici été mis de côté par d'autres artistes parce que jugés irréalisables. John Martin, 1831.
John Martin, cette peinture terrifiante que d'aucuns ont trouvé et trouvent encore, vous l'évoquiez, Laurent Grasso, à l'instant, pompier. Et au fond, c'est assez étrange parce que c'est le pompier avant l'art pompier, c'est le kitsch avant l'invention du kitsch. On est dans une rupture qui n'est pas si académique que ça parce qu'elle est incroyablement inventive par rapport à ce qu'était la scène de la peinture à l'époque, beaucoup plus convenable avec des maîtrises de paysages enchantés, des portraits parfaitement distingués. Et là, tout d'un coup, il y a un vacarme, un fracas, une exagération, certainement. Mais est-ce que c'est vraiment pompier, Laurent Grasso? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose d'autre que vous glissez sous cet adjectif.
Non, c'est vrai que c'est une peinture très animée. Ça pourrait faire penser même à des images extraites d'un film. Et je pense qu'il faut relier la pratique de Martin à sa pratique du spectacle, du son et lumière, qui a été évoqué avant. Je pense que c'est un ensemble voilà, qui certainement devait être très audacieux pour l'époque. Moi, il y a un autre peintre, et je ne sais pas comment le ranger non plus, celui-ci, mais dont je me suis inspiré pour faire quelques peintures de phénomènes célestes, c'est Frédéric Edwin Church. Voilà, qui est beaucoup c'est, alors, plus c'est, apaisé
c'est,
comme
c'est le
peinture.
Début de la grande peinture de paysage américaine, ouais. Elle aussi sur des formats immenses.
Exactement.
Et où ouais. Il représente la nature vierge quasiment donnée par Dieu. C'est la région élue par Dieu pour élargir le monde en quelque sorte.
C'est
que
ça, ouais. Voilà. On voit des arcs-en-ciel, des aurores boréales. Encore une fois, voilà.
C'est l'Éden, un nouvel Éden, oui.
Et c'est marrant parce que, moi, je sais pas, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais Church a eu une vie assez facile. Il venait d'un milieu, voilà, qui lui a permis d'exercer son art de manière très confortable, et ce qui était apparemment tout l'inverse de Martine.
Qui a dû se battre, voilà, qui est sorti dans des conditions difficiles d'une enfance très pauvre.
Oui, et qui a été même, je lisais son expérience d'apprentissage, on peut lire très facilement ça, qui avait été très douloureuse. Il y a eu une espèce de malentente avec son maître, il s'en est sorti. Bon, voilà, et je trouvais intéressant de comparer ces deux peintres.
Non, vous avez tout à fait raison, parce que c'est une nature édénique, et là, c'est une nature effroyable. Les deux sont délicieuses, n'est-ce pas ?
C'est une nature tout à fait sublime et cataclysmique, en fait. Ça, c'était vraiment le point fort de John Martin, et ce pourquoi il était reconnu.
Et la peinture édénique, c'était à Church que je faisais allusion,
oui,
bien sûr.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est vrai que ce qui est fascinant chez Martin, c'est cette capacité à incarner l'esprit du sublime, hérité des pré-romantiques, où là on a vraiment cette confusion totale des éléments, la roche devient presque vague, le ciel s'embrase, on est dans la confusion totale des éléments. Alors ce qui est intéressant avec John Martin, c'est qu'a priori, ses représentations étaient malgré tout très documentées, donc il essayait vraiment d'étayer en repartant d'observations, de paysages existants, en essayant aussi de s'informer sur des phénomènes naturels à partir desquels il recréait ses toiles, et évidemment en leur donnant une ampleur assez incroyable.
Alors ces toiles, ces œuvres qu'il fait à cette époque-là, au fond le paradoxe dans lequel on se trouve, c'est qu'effectivement nous les trouvons... Nous leur accordons une certaine vulgarité. Peut-être que le mot n'est pas bien choisi, donc vous le corrigerez, j'espère, Hélène Guenin. Mais aussi, nous leur accordons d'avoir été des grandes ruptures dans la sensibilité de l'époque. Ça a amené une façon de faire un tableau qu'on n'imaginait pas, n'est-ce pas ?
Oui, complètement, par cette dimension spectacle qui a été beaucoup soulignée, mais aussi par la diffusion. C'est vrai que John Martin était avide de succès, et notamment de succès populaire, donc il choisissait vraiment aussi des lieux où il pouvait être vu par le plus grand monde. Les tickets étaient vendus effectivement dans des halls d'opéra.
Est-ce que c'était pas ce qu'avait fait Géricault pour le Radeau de la Méduse, par exemple ?
Je ne sais pas, peut-être, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a vraiment cette dimension presque marketing, on dirait aujourd'hui, dans son approche de la diffusion de ses tableaux.
Est-ce que vous pensez que c'est le cas plus que Turner ? Par exemple, Turner louait une immense galerie, faisait ses expositions, était devenu autonome même s'il était toujours membre de la Royal Academy, mais il était devenu autonome, il avait créé un système de promotion autonome pour son propre travail.
Complètement, mais sans doute par besoin, par nécessité, plus que par choix. C'était pour pouvoir continuer à exposer et à partager son œuvre, quoi qu'il en soit. Turner s'est beaucoup battu parce qu'il a été extrêmement décrié par ses contemporains avec sa touche à la limite de l'abstraction. Alors que John Martin, qui était très critiqué par l'Académie à l'époque, qui n'a jamais vraiment voulu le reconnaître, était au contraire adulé par les foules. Je crois que vous citiez le chiffre tout à l'heure. Je crois que dans les années 1880, donc près de 30 ans après sa mort, 8 millions de personnes dans le monde avaient vu ses peintures de manière physique.
Il s'agit des trois peintures dont fait partie la peinture que nous examinons aujourd'hui, qui étaient rassemblées l'une à côté de l'autre comme un spectacle, en effet. Laurent Grasso, vous vouliez réagir, j'ai l'impression.
Non, mais c'est intéressant de faire le parallèle avec Turner. On a l'impression, justement, que Turner interroge aussi ce qu'est la peinture et commence à toucher du doigt une forme d'abstraction qui est une interrogation sur le métier de peintre, en fait. Alors que finalement, Martine est beaucoup plus peut-être du côté du spectateur. Et ce qu'il met en scène, c'est le regard du spectateur et la manière dont vont être déployés ces tableaux, dans quelles conditions. Et donc, bon, même si Turner pouvait convoquer des situations similaires, je pense qu'on est dans deux pratiques complètement différentes.
L'un ne vit ce qu'elle est fait et l'autre cherche sans cesse.
Non, j'irai pas jusque-là, mais... Il y en a un qui utilise effectivement des techniques nouvelles, on est plus dans Turner, je trouve qu'on est plus dans la matière, dans la peinture, dans une recherche sur la façon de peindre, en fait.
Et puis chez Turner, il y a la quête aussi de l'expérience. C'est vrai que Turner rapportait souvent cette anecdote pour l'un de ses célèbres tableaux. Il disait qu'il s'était fait accrocher au mât d'un tableau pour vivre la tempête, pour ne pas être tenté de redescendre à fond de cale et pour être en capacité finalement de représenter cette expérience de l'immersion au cœur de la tourmente des éléments.
Ça, c'est une des beaux aspects qui est devenu une légende, mais sans doute fondée, mais qui est également caractéristique de Vernet, qui lui aussi se faisait attaché au mât pour le grand peintre français Horace Vernet, le grand peintre qui a décrit tous les ports du royaume. Lui aussi s'est attaché au mât. Le feriez-vous, Laurent Grasso ?
Oh, moi, j'ai l'habitude d'envoyer des personnes à ma place lorsqu'il y a une situation un petit peu dangereuse.
Alors, je vous propose d'écouter, pour l'instant, le poème de Last Day. C'est un poème du romantique anglais William Thomas Beckford. Et c'est intéressant parce que ça nous met le paysage présent. C'est-à-dire qu'on est là dans l'atmosphère du gothique, n'est-ce pas, du gothique sombre, comme ça, de l'Angleterre. Et il faut se rendre compte que tout ce paysage que l'on est en train d'analyser, c'est un moment où des grandes figures anciennes comme Shakespeare ou bien comme Milton sont regardées plus que jamais. C'est un moment où les grands héros romantiques, c'est Faust, par exemple, ou l'ancien marin de Coleridge. C'est le moment, effectivement, du paradis perdu de Milton. Et donc, c'est un climat général, et je pense que ce poème de Thomas Beckford en fait partie.
Écoutez, n'entendez-vous pas cet épouvantable et profond son ? Tremblez, regardez, il a contrarié le sol effrayé, le soulève fermement en une redoutable convulsion. Jet de feu qui éclate depuis le ciel vengeur. Une voix de colère proclame « Vous êtes coupable, attendez votre perte finale. Jamais plus le refuge silencieux du tombeau n'examinera vos crimes, vos fragilités. » La conscience règne, la terre n'a pas besoin d'autre sceptre. Au-delà de ses limites vouées au malheur, vous n'oserez dire « Justice éternelle, jugement, le ciel, l'enfer ». William Thomas Beckford, The Last Day, 1823.
Hélène Guenin, encore un poème qui lui aussi est mystique. Il y a quand même un climat incroyablement mystique. Tout à l'heure, on entendait aussi John Martin qui parlait du tout-puissant ordonnateur à propos de Dieu qui intervenait dans l'Apocalypse. Et dans les œuvres que vous avez choisi des gravures. Et ces gravures sont liées au paradis de Milton ou bien ?
Alors, il y a plusieurs représentations. Il y a une représentation du déluge qui a été un des thèmes vraiment clés de John Martin. Et puis, Josué
qui est très inspiré de Poussin, parce que John Martin avait une admiration folle pour Poussin, en effet.
Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup représenté le paradis perdu de Milton. De toute façon, il baigne dans ce climat littéraire de son époque. Et il va lui-même inspirer des auteurs comme Dickens et les sœurs Brontë qui le bouderont moins que l'Académie.
Vous savez que la figure représentant Satan dans le Pandémonium a inspiré La Guerre des Étoiles, le dernier chapitre de La Guerre des Étoiles.
Apparemment, effectivement.
Voilà. On voit bien cette même scène, même représentation.
Et il semblerait aussi que d'autres films aient largement pillé, ou en tout cas se soient inspirés de l'univers de John Martin. Mais en entendant l'extrait, ça me faisait penser aussi à un autre grand auteur de cette période-là, c'est Mary Shelley. Oui. En fait, en 1816, elle est sur le lac Léman avec Lord Byron et se produit cet été-là ce qu'on appelle un hiver volcanique. Une explosion d'un volcan qui s'est produite à l'autre bout du monde a projeté des particules dans l'atmosphère et a déréglé le climat.
Donc on parle souvent de l'effet papillon. Je le vois qui se met à vibrer. Dès qu'il y a une explosion volcanique, il est ravi.
Exactement. Je me suis par exemple retrouvé à New York et on s'est croisés, je crois.
Oui, on s'est recroisés.
Un matin, il faut qu'on raconte ça quand
même.
Oui,
absolument. Je me souviens très bien de vous avoir vu déambuler, même pas à gare, simplement curieux. C'était le lendemain de
Sandy à New York.
Voilà.
C'était une situation assez étrange. Il y a eu des morts, mais bon, on va dire que ce n'était pas le tsunami du Japon. Voilà, c'est toujours délicat d'en parler d'une manière un petit peu détachée, mais c'était une impression très étrange que de se retrouver à New York, parce qu'on a vu tellement de films de catastrophes qu'on connaît tous, et de se retrouver à New York dans des rues désertes, avec des arbres qui étaient au milieu des avenues, les rues vides, des feuilles partout, des devantures de magasins qui s'étaient effondrées, et surtout, le plus étrange, j'ai fait justement une série de photos de cette situation, c'est le blackout qui a suivi.
C'était extraordinaire.
Se retrouver dans New York la nuit.
Pas une lumière.
Ouais.
Magnifique.
C'était incroyable. Il n'y avait que les phares des voitures qui nous rappelaient où on était.
Assez rare. Peu de voitures.
Peu de voitures. Et une impression très étrange de se retrouver downtown, puisque le haut de la ville était toujours normal, mais pas une lumière. Voilà, c'était marcher à l'intérieur d'une fiction, en fait. Donc j'ai un souvenir, oui, c'est sûr que ça rejoint un petit peu cette idée du sublime, c'est-à-dire elle est à la fois dans la position protégée du spectateur et pouvoir assister à quelque chose de dangereux, c'est sûr que c'est assez grisant.
C'est grisant, mais en même temps c'est effroyable, parce que on est terrifié d'utiliser le sublime à propos des catastrophes réelles du monde. Par exemple, quand on voit à la télévision la vague qui de ce tsunami qui ravage la côte thaïlandaise, c'est terrifiant, c'est d'une beauté terrible, et c'est l'horreur absolue. On pourrait répéter les choses comme cela sur beaucoup d'autres. Je n'ose même pas le faire, voyez-vous, à la radio, tellement ce sublime, l'horreur et le frisson et l'esthétique de l'horreur sont des choses qui se rejoignent parfois d'une façon très gênante, non ?
Tout à fait. Et dans l'exposition, en fait, elle a lieu un peu en deux volets. Le déploiement de cette généalogie ou interrogation entre des œuvres du XVIIIe et finalement notre grande prise de conscience de la deuxième moitié du XXe siècle. Et dans une seconde galerie, un geste unique. Celui de Tadashi Kawamata, artiste japonais, qui lui-même a souhaité rendre hommage, d'une certaine manière, aux victimes du tsunami et transfigurer cette expérience qu'il avait vécue lui-même depuis Tokyo. Donc il était loin des côtes japonaises, mais il a vu ce débordement et les côtes de son pays ravagées, et il a réalisé une sorte d'immense vague de bois qui évoque finalement ces images que l'on a tous vues de tous ces matériaux charriés par la puissance de l'eau. Et on se retrouve nous-mêmes en tant que spectateurs à arpenter sous cette sorte de treille de bois, entre admiration et finalement aussi sentiment de petitesse et d'insécurité, parce qu'on a physiquement tout ce bois au-dessus de nos têtes et qu'on aperçoit le ciel à travers cela.
Donc Grasso,
à propos du Japon, le rapport justement à l'image et à la représentation de la catastrophe, non pas uniquement parce qu'il y a eu celle que l'on connaît il y a quelques années, je pense que c'est complètement différent d'une autre. Il y a une forme d'immédiateté et de gêne face aux images qui représentent la catastrophe, qui est, je trouve, différente de notre fascination occidentale. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pour quelle raison, mais je sais qu'il y a encore des volcans en activité. J'avais par exemple une image de volcan que j'avais dans mon exposition et ça posait une forme de problème. Il y a eu aussi l'exposition autour des prix du champ qui devait avoir lieu juste au lendemain du tsunami en 2011. Cette exposition a été un petit peu retardée parce que les circonstances étaient compliquées, évidemment. Et à l'époque, je devais montrer ce film avec un nuage que l'on voyait avancer dans les rues de Paris. Mmh. Et on m'avait demandé de changer l'œuvre, en fait.
Donc, c'est assez curieux ce que vous dites. Ça voudrait dire que cette question du sublime, qui est effectivement d'origine occidentale comme analyse, c'est Kant, Goethe et évidemment Burke, dont on parlait tout à l'heure.
Occidentale et masculine.
Et masculine, dites-vous ?
Oui, tout à fait. Ça a été très critiqué, d'ailleurs. Burke a été très critiqué par les féministes.
Ah bon ?
Et oui, parce que finalement, c'est aussi l'incarnation d'une période qui est dans un rapport où on pense encore pouvoir dominer la nature.
C'est masculin.
C'est assez masculin. En tout cas, les féministes et les écoféministes, notamment, relisent vraiment l'histoire de la révolution industrielle comme une tentative, évidemment, d'exploitation des ressources naturelles jusqu'à épuisement. Et finalement, ce qui se produit aujourd'hui comme la responsabilité partielle des hommes.
Intéressant. Alors, pour rebondir sur ce que disait Laurent, donc je disais que c'était très occidental. Pourtant, donc ça voudrait dire que la culture japonaise, par exemple, aurait échappé à cette fascination du sublime. Pourtant, je pense à Hokusai. Hokusai, la grande vague d'Hokusai, c'est le sublime. Oui. Ça sera l'objet d'une autre émission. Je vous remercie beaucoup, Laurent Grasso, d'avoir commenté avec nous cette œuvre de Jean Martin. Merci beaucoup, Hélène Guenin. Je me réjouis de voir votre exposition.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons regardé ensemble une peinture de John Martin réalisée en 1851 et intitulée « The Great Day of His Wrath », ce qui veut dire « Le grand jour de sa colère ». C'est plus facile à prononcer en français. Je vous signale que vous pourrez admirer de très belles eaux fortes de John Martin au sein de l'exposition « Le sublime, les tremblements du monde » au Centre Pompidou-Metz à partir du 11 février et ce jusqu'au 5 septembre 2016. Et elles sont en vis-à-vis d'une œuvre de Laurent Grasso, l'artiste que j'ai eu la joie d'inviter aujourd'hui dans notre émission. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes La très belle voix de Gabriel Dufay. À la technique Philippe Palares. Réalisation Franck Lilin, merci Franck. Les Regardeurs, une émission de Sandra Adam et de Jean Deloisy. Babe, come until you go, babe, go to come for me, babe, come to go by me, babe. To go with baby, come to go by baby coming me go. Babe, that's me.
to come out, baby. Baby comes now, we go. Baby, can you come, go? Somehow, babe, goes me.